voix nue. Toute cette semaine, Patrick Boudet rencontre Zep. Ce soir, le monde et moi.
Bonsoir Zep.
Bonsoir.
À 6 ans, vous dessinez obsessionnellement Lucky Luke un peu partout. À 7, vous recevez un album des aventures de Donald. À 8, vous découvrez dans le journal de Tintin le Spirit de Will Eisner et par là même l'image de la violence et de la sexualité. Puis, vous lisez Achille Talon de Greg qui vous permet d'être premier en français durant toute votre scolarité. On pourrait ainsi égrener les auteurs qui vous ont marqué. Mais il y a un fait très important durant cette période, c'est le jour où une institutrice dit à vos parents que vous êtes très doué en dessin. Et à partir de ce moment-là, on commence à vous regarder différemment. En entrant au collège, dessiner va non seulement vous permettre de comprendre le monde, mais surtout d'entrer en communication avec lui, de vous faire des amis, et puis d'acquérir une petite notoriété. Pouvez-vous nous expliquer comment le dessin va vous mener à l'autre ?
Je pense que le dessin, d'abord, m'a servi de bouclier contre l'autre. Quand j'étais enfant, j'étais dans mon monde dessiné pour justement me protéger d'aller vers les autres. Et c'est les autres qui sont venus vers moi, en fait. Ils sont venus me regarder dessiner, qui sont venus me demander des dessins. Malgré moi, pratiquement, je me suis retrouvé une sorte de dessinateur public de l'école. Et ça m'a permis de rencontrer l'autre. Et après, alors ça c'était assez primaire comme manière de rencontrer l'autre, hein. C'est le petit truc qui fait qu'on s'intéresse à vous. Et après, par la suite, je me suis intéressé au monde, parce que j'avais envie de le dessiner. Donc j'avais envie de dessiner les gens, donc je me suis mis à les regarder. J'avais envie de dessiner les lieux où j'étais, j'avais envie de raconter des histoires qui se passaient là. Et donc j'ai été obligé de regarder autour de moi, de plus être que dans mon imaginaire, ce qui était le cas au début dans mes bandes dessinées, mais qui était vraiment devenir un dessinateur observateur. Mais ça, c'est plus tard. C'est vraiment à partir de je dirais, de la fin de l'adolescence que j'entame cette démarche-là avec le dessin.
Et vous pouvez nous raconter toute l'histoire du magazine qui s'appelle Zep?
Oui, alors ça c'est l'arrivée, l'entrée au lycée. C'était à l'époque, on aurait pu dire un fanzine, mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, enfin c'était plus modeste que ça. C'était une feuille A3 pliée en deux et qui était une espèce de truc potache sur la vie scolaire que je faisais avec deux copains de classe, puis tout seul. Et ça paraissait un peu quand on avait du temps. Et il n'y avait pas d'impression, c'était un exemplaire, et c'était l'exemplaire original qui tournait dans le lycée. Et donc, ce qui était assez amusant, c'était de faire des espèces de sondages. Alors, il y avait plein de personnages comme ça qui revenaient, qui étaient des caricatures des profs, mais qui avaient d'autres identités, et qui étaient caricaturés parfois en animaux, enfin... Et donc, le numéro qui m'avait valu pas mal de problèmes, c'est on avait fait un ZEP spécial sondage, et donc il y avait une espèce de comme ça d'élection du personnage préféré du lycée, avec toutes les caricatures des profs et du directeur, qui était figuré en phoque, parce qu'il avait une grosse moustache et des dents comme ça qui dépassaient sur les côtés, donc il avait un peu une tête de phoque. Et je sais pas pourquoi le journal, dans sa tournée, avait terminé à la direction. Et donc, le directeur s'était pas beaucoup aimé en fogue. Il m'avait convoqué. Et donc, il m'avait convoqué dans son bureau. Il m'a dit, alors c'est vous Zep. Et c'est la première fois qu'on m'appelait Zep, en fait, parce que Zep, c'était le journal. Il m'a dit, c'est vous Zep. Et j'étais fier. J'ai dit, oui, c'est moi. Et il m'a dit, oh, vous êtes viré. Il m'avait renvoyé pour deux jours du six, qui était pas bien méchant. Mais et donc quand je suis revenu, j'étais Zep, quoi. Donc tout le monde m'appelait Zep. Hey, Zep, Zep, tu me fais un dessin Zep. Donc je me suis retrouvé avec ce. Ça a jamais été volontaire. J'ai jamais dit maintenant je vais prendre un pseudonyme et m'appeler comme ça. Et Zep, ça s'appelait Zep parce qu'au départ, donc il y avait des histoires sur les profs, et il y avait aussi la musique, la découverte de la musique avec l'adolescence, et dans les grands groupes qui nous faisaient rêver à l'époque, il y avait Led Zeppelin, qui était déjà vraiment sur la fin, hein, c'était 79. Mais bon, il y avait toute une légende autour de Led Zeppelin, toutes les phrases, tout ce qu'ils avaient fait. Et en tant que jeune adolescent, forcément, c'était des figures qui nous faisaient rêver. Donc, on avait appelé le journal Zepp à cause de Led Zepp. Voilà pourquoi je me retrouve avec ce nom aujourd'hui.
Vous êtes fait gronder ?
Je m'étais fait gronder pas trop, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé. Enfin, je pense que je dois une partie de cette approche humoristique du monde à mon papa, parce que ma mère, oui, avait crié, elle était furieuse, elle était en pleurs, elle était sûrement beaucoup sous le choc. Et mon père, qui avait vécu des choses, lui, il travaillait quotidiennement avec des jeunes qui vendaient de la drogue et qui tranchaient la carotide à leur grand-mère pour leur voler leur sac. Donc ça lui semblait pas très très grave tout ça. Donc il s'était marré, puis il m'avait dit bon, t'aurais pu éviter de le dessiner avec une tête comme ça. Voilà. Mais c'était pas plus que ça. Et en fait, c'était, pour finir, tout ça n'est pas très grave. Et je pense que j'ai intégré un peu cette philosophie que pour finir, tout ça n'est pas si grave. Tout ça est une espèce de farce et on va essayer de le traverser en s'amusant. J'étais pas un adolescent qui avait besoin de se mesurer à une figure autoritaire très forte parce que mon père était pas très autoritaire. Je pense que lui, il voyait d'un bon œil que je fasse quand même un peu des bêtises et que je devienne un peu je sorte un petit peu des jupes de ma mère et que j'arrête un peu de dessiner et que je fasse des choses de garçon. Voilà. Lui avait été un garçon, je pense qu'il avait fait beaucoup, beaucoup de conneries quand il était adolescent. Donc, forcément, tout ça lui semblait assez dérisoire, au fond, je crois.
Devenir Zepp, ça vous a permis de changer d'identité. Est-ce que ce changement d'identité vous a permis de grandir ?
Sans doute parce que j'ai changé d'identité en même temps que j'ai changé d'identité physique, c'est-à-dire que ça coïncide au moment où je deviens adolescent, où je deviens pubère, où j'ai de la moustache, où je commence à être excité par les filles, où je commence à avoir une sexualité, même si elle est solitaire, mais enfin je commence à tout à coup mon corps fonctionne différemment et c'était assez cool d'avoir une autre identité à ce moment-là. En fait, j'étais fan du groupe Kiss et ça nous faisait complètement rêver à cet âge-là parce que Kiss, c'était ça, c'était des gens qui avaient une autre identité. Ils s'étaient maquillés et personne ne savait qui ils étaient vraiment. Donc, il y avait une espèce de légende, mais qui sont-ils vraiment comme Superman? Mais c'était Superman qui... On savait que Superman n'existait pas, tandis que Kiss, ils existaient vraiment et on savait que le soir, après les concerts, ils entraient chez eux, ils se démaquillaient et c'était peut-être des pères de famille, des gens qui avaient une vie normale, mais par contre, à 22h, ils se maquillaient, ils allaient chanter dans des salles de concert et ils avaient une vie complètement folle de rockstar, quoi. Ça nous faisait rêver. Ça nous faisait rêver parce qu'il y avait aussi toute cette image de la rockstar de l'époque qui était des types à cheveux longs, à torse nu, à pantalon moulant et qui avaient tous 40 filles qui les attendaient à la fin des concerts. Et nous, on avait du mal à avoir rendez-vous avec une seule. Donc forcément, ça faisait rêver, quoi. On a envie d'être des rockstars. Et pour moi, ça marque aussi une rupture un peu avec la bande dessinée parce que toute mon enfance... j'ai répété comme un mantra que je voulais faire de la bande dessinée. Je le disais à mes parents, à mes profs, qui étaient désespérés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon, de sa vie? Et moi, je disais, je ferai de la bande dessinée, je veux être un auteur de bande dessinée. Mais je connaissais aucun auteur de bande dessinée, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je connaissais leur nom, on voyait leur signature de temps en temps, on voyait une petite photo d'eux dans un journal. J'avais jamais assisté à une séance de dédicace, donc je savais même pas à quoi ressemblait Franquin, je savais même pas si Maurice était toujours vivant, enfin tout ça était très mystérieux. Et là, tout à coup, ces rockstars, elles étaient bien vivantes. On les voyait dans les journaux, on les voyait à la télévision, tout le monde parlait d'eux, tout le monde voulait avoir un t-shirt de Kiss, de AC/DC, de Queen, évidemment de Led Zeppelin, des groupes de l'époque. Et donc, j'avais beaucoup plus envie de ressembler à ça qu'à ces auteurs de bande dessinée dont les rares photos que j'avais vues, c'était des pépés avec un collier de barbe, une pipe, qui étaient en complet, en costume trois pièces et qui n'avaient pas l'air très rock'n'roll, quoi. Qui n'avaient pas l'air, enfin, par rapport à tout à coup, à cette adolescence, cette puberté qui arrivait, j'arrivais pas à faire coller l'image d'un auteur de bande dessinée là-dessus. Et donc, avec la même obsession que je voulais être auteur de bande dessinée, j'ai voulu devenir guitariste de rock. Et donc, j'ai demandé à mes parents d'avoir une guitare. J'avais 12 ans. Et je pense que j'ai été assez insistant pour qu'ils craquent. Et donc, ils ont loué une guitare classique, malheureusement. Je voulais une guitare électrique, mais j'ai une guitare classique. Et j'ai commencé des cours de guitare. Je me suis mis vraiment à fond là-dedans. C'est-à-dire que je jouais tous les jours au moins une heure de guitare, alors que j'avais rien à jouer, mais je répétais mes exercices inlassablement. Et pour me faire un petit peu d'argent, parce que le but c'était de m'acheter une guitare électrique et de monter un groupe immédiatement. C'est-à-dire que pour moi c'était clair que je commençais les cours j'avais dû commencer les cours en septembre. Et il était clair qu'en octobre j'aurais un groupe et qu'en décembre on allait jouer dans un stade quelque part. Donc avec des copains avec qui on partageait ce rêve, j'avais fait les dessins de nos costumes, le logo de notre groupe qui changeait tout le temps, mais enfin on avait ce genre de projet. J'ai pu m'acheter une guitare électrique après 2 mois et monter un groupe qui était un peu rien du tout parce qu'on ne savait pas jouer. C'est-à-dire, il y avait un batteur qui n'avait pas de batterie mais qui tapait sur un tambour. Il y avait un chanteur mais qui parlait pas anglais, qui chantait en yaourt. Et moi qui jouais de la guitare. On n'a jamais donné de concert avec ce groupe, mais c'était notre groupe. On en parlait à l'école. Ce qui était important surtout, c'était de dire on a un groupe de rock. Moi, je fais quoi? Je fais un guitariste de rock dans le groupe. Ah bon? Et donc, on racontait ce genre de trucs. On se faisait énormément mousser. Et je me rendais compte en même temps que c'était pas très exaltant. Enfin, notre activité de groupe de rock, elle était nulle. Et pour finir, j'étais pas très très bien dans cette vie de guitariste de rock. Pour finir, ça me collait moins bien que ma vie d'auteur de bande dessinée. Et là, j'ai découvert Gottlieb, l'auteur de la rubrique Abrac, par un album adulte qu'il avait fait, enfin ado adulte, qui s'appelait Ralovely. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Voilà, il y a une rockstar dans la bande dessinée, c'est Gottlieb. Parce qu'il se mettait en scène lui, parce qu'il se permettait de parler de choses extrêmement transgressives, parce qu'il y avait du sexe, parce que il était extrêmement dur envers les institutions, envers les mondes des adultes, envers la religion, enfin, et il était beaucoup plus adolescent que je n'osais l'être moi-même. Et là, je me suis jeté dans les albums de Gottlieb et j'ai repris la bande dessinée à fond. Donc l'éclipse sans bande dessinée, elle a duré peut-être 6 mois. La vie rock, elle a continué parce que je continue à jouer aujourd'hui et j'ai joué dans beaucoup de groupes depuis... ça, c'était il y a 35 ans. Mais la bande dessinée a tout de suite repris ses droits grâce à Gottlieb. Il y avait une culture rock chez Gottlieb, c'est-à-dire qu'il parlait de ça, il parlait de ce monde-là, et il dessinait une série aussi dans Rock et Folk qui s'appelait Hamster Jovial, où il racontait les aventures d'un chef scout qui essayait de rallier des petits scouts en singeant les pop stars de l'époque. Et c'est drôle parce que ça c'est un album, enfin à l'époque j'avais pas l'album, mais je le voyais dans Rock et Folk, et ça me fascinait parce que ce dessin... Enfin, c'est Gottlieb vraiment au sommet de son art quand il dessine ça. Il est une grâce incroyable dans ses dessins. Il y avait une page qui me fascinait où Hamster Jovial se met à jouer Flamme pure, Flamme légère, sa chanson scout sur sa guitare classique. Et tout à coup, il est comme saisi par un démon. Il se met à baver, à avoir les yeux exorbités. Il passe sa guitare dans son short, comme si c'était son sexe. Il la fait ressortir par sa braguette. Enfin, c'est une page hallucinante. Et à la fin, il brise sa guitare. Et à la fin, on voit son prof de guitare avec la guitare éclatée sur la tête qui dit, je sais pas si le grand Narcisse Oyepes voyait le morceau comme ça. Et des années plus tard, quand j'ai rencontré Gottlieb la première fois, on a passé une journée ensemble à discuter. Et Gottlieb m'a offert cette planche. Et cette planche est toujours dans mon atelier, face à ma table. Et c'est marrant, ça, pour moi, ça boucle la boucle, parce que c'est cette page qui m'a... elle est liée à Zep, elle est liée à l'adolescence, elle est liée vraiment à mon amour de la bande dessinée. Quoi. et à mon amour de Gottlieb et à ma vénération pour son travail. Et elle est là et je me dis, waouh. Pour moi, c'est comme si j'avais la Joconde dans mon atelier.
L'adolescence aussi, c'est le moment où vous devenez un vrai lecteur de BD, où vous allez vous constituer une bibliothèque. Il y a cet épisode où vous prenez un livre d'Yves Chaland chez un libraire. Quels sont les auteurs qui vous ont vraiment constitué à ce moment-là, au moment de l'adolescence, qui est une autre étape dans votre construction ?
Là, il y a une cascade d'auteurs, parce que jusque-là, j'en connaissais les cinq mêmes que je lisais tout le temps, et là, en l'espace d'une année, j'en découvre 100. Donc, évidemment, Gottlieb a été vraiment le fil rouge dans cette période, mais beaucoup d'auteurs américains, et je lisais le magazine Metal Hurlant, donc Yves Chaland, que j'ai découvert, qui avait à la fois ce lien avec la bande dessinée belge, ce côté ultra classique, et en même temps un côté punk assez iconoclaste, et puis une rigueur artistique, une rigueur graphique, une espèce de quête de l'image parfaite comme ça. Alors il y avait à la fois les dessinateurs plus échevelés, plus brouillons qui étaient dans le propos, et ceux qui étaient dans une démarche graphique. Alors suivant les périodes, je dirais que j'ai toujours mélangé, j'ai jamais été complètement d'un côté, mais j'étais fan de d'Yves Chaland, de Serge Clair, de Joost Swart, dessinateur hollandais, ces dessinateurs qui étaient dans une recherche d'une esthétique très très pure, très parfaite, et leurs albums sont magnifiques, les albums de cette époque-là, des débuts des années 80. Je me rappelle que je recopiais ces pages, c'était dessiné au pinceau souvent, et c'était nouveau pour moi. Jusque-là, j'avais dessiné, je faisais des dessins, mais je me préoccupais pas du tout de la facture graphique de mes dessins. Il fallait que ce soit rigolo, que ça ressemble, voilà. Mais je dessinais avec un stylo bille ou peu importe. Là, tout à coup, le choix du papier, de l'outil était essentiel. Donc, je me rappelle avoir passé des soirées, des week-ends entiers à essayer de dessiner un trait au pinceau, parce que dessiner au pinceau un trait droit comme le fait Chaland, c'est extrêmement dur. Et donc j'ai des pages entières où j'essayais de reproduire, je dessinais des immeubles, je dessinais des architectures, parce que j'avais envie de comprendre ça. Et chaque fois que je passais une petite étape, j'avais l'impression de ça y est, je vais pouvoir faire un livre. Sauf que je savais juste dessiner une poignée de portes au pinceau, donc c'était encore un peu maigre. Et puis après, c'est la découverte des auteurs américains plus underground, comme Crumb et Shelton. Et là, de nouveau, c'est un dessin qui tout à coup, on ouvre une porte et on est dans une autre salle, dans une autre salle du Louvre, quoi. Il y a un monde graphique que je connaissais pas. Alors bon, les dessins de Crumb aujourd'hui, on les a beaucoup plus vus, mais cette espèce de minutie, même quand il dessine des personnages animaliers très simples, où il singe en fait des personnages de Disney, quand il dessine Fritz the Cat, je me disais il y a à la fois une espèce de rigueur, de minutie, où on pourrait croire que c'est Dürer ou Rembrandt qui a dessiné, et en même temps c'est Rembrandt sous LSD, donc ça part n'importe où, ça raconte aussi parfois n'importe quoi, mais j'aimais ça, quoi, j'aimais ce mélange, et ça se passe sur une année ou deux où tout à coup c'est comme si j'avais vécu dans un petit village où il y avait juste un kiosque avec trois livres. Et j'entre dans la plus grande librairie du monde. Et là, il y a de la bande dessinée partout. Mais ces librairies de bande dessinée existaient déjà à Genève, mais simplement, j'y mettais pas les pieds.
Comment votre style s'est constitué ? Est-ce que vous êtes allé chercher chez tel ou tel auteur ?
Quand j'étais en première année aux Arts Déco, je me rappelle d'un camarade qui s'appelait Phil Stooks, c'était son nom de dessinateur, qui avait un style extrêmement marqué, c'est-à-dire qu'il dessinait dans un dessin proche de celui de Serge Clair, mais avec encore quelque chose d'un peu différent, avec une rigueur graphique, mais même sa manière de s'habiller, de se coiffer, tout était cohérent. Et moi, j'étais absolument pas cohérent. J'avais des longs cheveux, mais je lisais les albums de Serge Clair, et je lisais aussi les albums de Shelton, et j'aimais aussi Achille Talon, et voilà. Et il me disait, mais toi, t'as aucun style. Je disais, putain, il faut que j'ai un style, c'est vrai, ça va pas, quoi. Et aux Arts Déco, la bande dessinée n'était pas très très bien vue non plus, c'était un sous-genre. Il n'y avait pas de section bande dessinée. Donc, on était un peu perçu comme quelqu'un qui avait une manie en dehors de son travail graphique. Et je me disais, bon, ok, il faut que j'ai un style. Alors, c'est là où j'ai commencé à essayer de dessiner au pinceau, à reproduire les dessins d'Yves Chaland ou Serge Clerc. Et je me rappelle avoir piqué des tics de dessin. Et en fait, c'est pas du tout intéressant de faire ça, mais on le fait parce que c'est une quête identitaire quand on est adolescent. Donc, pour ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai essayé de dessiner les chaussures comme Yves Chaland, par exemple. Il avait une manière de dessiner les chaussures avec la semelle qui est collée au sol. Le trait s'interrompt quand il touche le sol et il a juste le bout avant qui se relève et il y a une légère ombre dessous et ça donne une espèce de petites signatures esthétiques comme ça, et en plus les personnages ont toujours l'air d'être bien collés au sol. Mais après, c'est des choses, il m'a fallu des années pour me débarrasser de ça, alors qu'il m'a fallu une nuit pour le piquer. Donc c'est pas très intéressant, en fait, mais c'est quelque chose qui est lié à l'adolescence. On se déguise, on va voler les habits des autres pour leur ressembler. C'est comme ceux qui s'habillent comme des stars de la pop. Mais c'est pas nous, mais voilà, on utilise ce déguisement pour passer. Dans le dessin, on le fait aussi. On va piquer le dessin de quelqu'un d'autre pour lui ressembler. Mais je pense que ce qui m'a peut-être sauvé par rapport à ce copain, Phil Stooks, qui était vraiment mille fois plus doué que moi en dessin à cet âge-là, mais qui aujourd'hui a toujours pas fait d'album. Je le salue s'il nous écoute d'ailleurs. Il est devenu graphiste et il est certainement extrêmement talentueux parce qu'il l'était vraiment. Mais moi, j'ai pris des choses partout. J'arrivais pas à choisir. C'est-à-dire que j'arrivais pas à choisir entre Serge Clerc et Franquin et Greg et Shelton et Walt Disney. Et voilà, j'aimais tout ça. Donc, je mettais un peu de tout dans mon dessin, ce qui fait que j'avais toujours aucun style. C'est un truc complètement disparate, mais une sorte de patchwork. Mais il était aussi porté par l'envie de raconter des histoires. Donc, tout ça était un peu accessoire. Et je me rappelle justement que ces camarades qui eux étaient dans une recherche de style, avaient vraiment un style beaucoup plus affirmé, mais ils me demandaient si je voulais pas leur écrire une histoire parce qu'ils savaient pas quoi raconter. Et pour finir, quand on prend le style de quelqu'un d'autre, c'est comme si on prend sa langue, en fait. Ça je l'ai compris beaucoup plus tard, mais le dessin, c'est comme la voix de quelqu'un. Donc vous pouvez être une sorte de Patrick Sébastien qui imite la voix de quelqu'un, mais ça va pas vous écrire des chansons. J'avais des trucs à raconter, j'avais des histoires, donc ça portait quand même ça donnait quand même une petite colonne vertébrale aux pages que je dessinais. Et j'arrivais de temps en temps à en publier à gauche à droite dans des fanzines, dans des petits journaux. Parce que Zeb s'est arrêté assez vite, en fait.
Durant toute votre adolescence, vous avez réussi à placer des petits dessins à droite à gauche.
Ouais, ou des pages de bande dessinée même. Même de temps en temps dans la presse, la presse quotidienne, j'arrivais tout à coup sur un thème, paf, à placer un strip, une page. J'allais voir les rédactions et ça aussi, ça m'a formé, je pense. C'est que je savais que je voulais être auteur de bande dessinée. Je pense que je devais avoir une arrogance un peu insupportable parce que c'était pas bon, quoi. Ce que je faisais, c'était des dessins, enfin c'était pas du tout mûr encore, mais j'allais les présenter, j'allais voir les rédacteurs en chef, et j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et je leur parlais un peu comme si j'étais un collègue. Alors voilà, je vous ai amené ça. Alors il y en a qui étaient bienveillants et qui, je pense, avaient un peu de tendresse parce qu'ils voyaient l'enfant qui était là et ils étaient gentils et ils me disaient non, on peut pas le prendre. Parfois ils me prenaient un truc, puis il y en avait qui étaient durs, qui me disaient mais tu te prends pour qui, c'est de la merde, retourne chez toi, reviens dans 10 ans quand t'auras appris à tenir un crayon. Enfin, on m'a aussi dit des choses assez dures, et c'est bien, c'est aussi, on apprend. J'étais mal à l'aise dans mon dessin, je savais bien que c'était une supercherie, je savais bien que c'était pas, que j'avais pas un style à moi, que c'était un truc un peu composite comme ça, qui était pas très solide. Si on soufflait dessus, ça s'effondrait. Mais ma volonté, elle était réelle, et je savais que j'allais y arriver, que je voulais faire de la bande dessinée. Donc je venais, je me disais bon, à la longue, je savais pas moi quand je serais prêt. C'est très dur de dire. Vous me posez la question sur le style, je sais pas quand mon style est arrivé. C'est pas moi qui m'en suis rendu compte. Je me suis pas dit un jour, voilà, j'ai un style. J'apprenais à parler. Et un jour, j'ai su parler. Un jour, j'ai commencé à savoir parler. Mais je continue à apprendre. Chaque jour, j'ai l'impression que mon vocabulaire graphique s'agrandit et je peux raconter, dire des choses que j'aurais pas pu dire il y a une année. Donc, ça continue. Au début, j'ai fait mes premiers livres, j'avais 12 mots. Aujourd'hui, j'en ai peut-être 1000 et j'espère à la fin de ma vie que j'en aurai encore beaucoup plus. Je pense que vers 17 ans, j'ai commencé à avoir un dessin qui était à moi, qui était encore composite, mais qui était à moi, qui ressemblait pas à celui d'un autre, il ressemblait à celui de 1000 autres mélangés ensemble, et on pouvait dire ça c'est du Zep. Et il y avait des gens qui commençaient à suivre mon dessin, à vouloir lire, à vouloir venir me voir dessiner. J'étais étudiant encore, mais qui venaient me demander une affiche, une pochette de CD, une affiche de concert, un truc comme ça, parce qu'ils voulaient ce dessin-là.
Et le passage du lycéen à l'étudiant, est-ce qu'il est aussi angoissant que celui entre... l'élève de primaire qui va rejoindre le collège?
Non, parce que j'allais vers quelque chose que j'avais choisi, là. J'allais aux arts déco et je voulais faire du dessin. Tandis que quand je suis entré au lycée, j'avais pas le choix, j'étais obligé d'y aller. Et ça m'inquiétait. Et je suis entré au lycée, j'étais un enfant et je suis devenu un adolescent au lycée. Je le suis devenu assez vite. Quand je suis entré aux arts déco, c'était une école d'adultes. Les gens étaient beaucoup plus âgés, en fait. La majorité de ma classe avait entre 18 et 23 ans, et moi, j'avais 14 ans. Donc, j'étais vraiment un gamin par rapport aux autres. C'est un hasard. C'est-à-dire que je suis tombé sur une volée comme ça, où les gens étaient beaucoup plus âgés, donc beaucoup plus matures. Il y en avait qui avaient déjà un appartement. Il y en avait qui étaient mariés. C'était hallucinant. Moi, j'étais un gamin. Donc, j'ai fait ce que j'ai souvent fait, c'est que j'ai joué le rôle de quelqu'un de plus grand. Et c'était pas très solide. Je pense que ça se voyait bien que j'étais pas. J'allais à des soirées où tout le monde fumait, buvait des bières et moi j'étais là avec ma pauvre bière. Je sais que si je la finissais, j'arriverais pas à rentrer. Je devais être rentré chez moi à 10 heures parce que mes parents étaient pas d'accord que je sorte tard. Enfin, donc j'étais un petit au milieu de ces grands. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai joué le grand et à force de le jouer, je suis devenu. Et je pense que j'ai joué le dessinateur et à force de le jouer, je le suis devenu aussi. Ça a été une démarche volontaire.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Patrick Boudet avec Zep. À voix nue. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Jason Taous. Réalisation, Véronique Villa. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.